Ce discours a permis de stopper l'hémorragie, mais l'affaire Wright avait causé des dégâts, notamment en Pennsylvanie, où les électeurs démocrates étaient plus âgés en moyenne et plus conservateurs. Si nous avons évité la chute libre, c'est grâce au travail acharné des bénévoles, à l'afflux des contributions de petits donateurs qui nous ont aidés à acheter du temps d'antenne pendant 4 semaines, et à certains élus de poids qui se sont engagés à me soutenir auprès de leur base électorale blanche et populaire. Au premier rang de ces derniers, le sympathique Bob Casey, fils irlando-catholique de l'ancien gouverneur de Pennsylvanie et ancien collègue du Sénat. Il n'avait pas grand-chose à gagner dans l'affaire. Hillary bénéficiait de larges soutiens et allait, selon toute probabilité, remporter cet État, et il n'avait pas encore pris parti au moment de la diffusion de la vidéo du révérend Wright. Pourtant, quand j'ai appelé Bob avant mon discours pour lui proposer de le libérer de l'engagement qu'il avait pris en ma faveur, au regard du changement de circonstances, il a tenu à maintenir son soutien. « Cette histoire avec Wright n'est pas très heureuse », m'a-t-il dit, avec un sens magistral de l'euphémisme. « Mais je continue de penser que tu es celui qu'il nous faut. » Bob a tenu parole et m'a soutenu avec élégance et courage, passant une semaine à faire campagne à mes côtés, d'un bout à l'autre de la Pennsylvanie. Petit à petit, nous avons commencé à remonter dans les sondages. Même si nous savions qu'une victoire était inenvisageable, nous nous disions que nous pouvions encore réduire l'écart pour ne perdre que de 3 ou 4 points. C'est alors, pile au mauvais moment, que j'ai commis ma plus grosse bourde de la campagne. Nous nous étions envolés pour San Francisco afin de participer à une collecte de fonds à laquelle assisteraient de riches donateurs, le genre de soirée que je redoute en général, organisée dans une demeure majestueuse avec tapis rouge et photocall, hors-d'œuvre aux champignons shiitake et invités fortunés, des gens absolument formidables et généreux pour la plupart quand on les rencontrait seul à seul, mais qui, collectivement, correspondaient à tous les stéréotypes de la gauche californienne, celle qui boit du latté et roule en Prius. La soirée approchait de son terme lorsque quelqu'un, durant l'inévitable séquence des questions du public, m'a demandé de lui expliquer pourquoi, à mon avis, tant d'électeurs des classes populaires en Pennsylvanie continuaient de voter contre leurs propres intérêts et à élire des républicains. On m'avait déjà posé 1000 fois cette question, sous une forme ou une autre. En règle générale, je n'avais aucun mal à répondre, à évoquer les divers motifs, une inquiétude liée aux problèmes économiques, une frustration à l'égard d'un gouvernement fédéral qui paraissait indifférent, et des divergences de vues légitimes sur certaines questions sociales telles que l'avortement, qui poussaient les électeurs à voter républicain. Mais ce soir-là, soit à cause de ma fatigue intellectuelle et physique, soit à cause d'un simple mouvement d'impatience, ce n'est pas exactement comme ça que j'ai répondu. Vous allez dans certaines de ces petites villes en Pennsylvanie, ai-je dit. Et comme dans beaucoup de petites villes du Midwest, les emplois ont disparu depuis 25 ans et rien n'est venu les remplacer. Elles sont restées sur le carreau sous l'administration Clinton et sous l'administration Bush, et chaque gouvernement successif déclarait que d'une manière ou d'une autre, ces communautés allaient se régénérer. Mais ça n'a pas été le cas. Jusque-là, tout allait bien, sauf que j'ai alors ajouté « Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ces gens soient aigris, à ce qu'ils se raccrochent aux armes ou à la religion, ou à un sentiment d'hostilité envers tous ceux qui ne sont pas comme eux, ou envers les immigrés, ou envers le libéralisme économique, pour expliquer leur frustration. » Si je suis capable de reproduire ici cette citation mot pour mot, c'est parce qu'il y avait dans la salle ce soir-là une journaliste indépendante qui m'enregistrait. À ses yeux, ma réponse risquait de renforcer les stéréotypes négatifs déjà répandus en Californie sur les électeurs blancs des classes populaires et méritait à ce titre de faire l'objet d'un article sur le site du Huffington Post. Une décision que je respecte, soit dit en passant, même si je regrette qu'elle ne m'ait pas consulté avant d'écrire cet article. C'est ce qui différencie les journalistes, même les plus à gauche, de leurs homologues conservateurs, leur inclination à fustiger les personnalités politiques de leur propre camp. Aujourd'hui encore, j'aimerais pouvoir retirer ce que j'ai dit ce soir-là et y apporter quelques corrections. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces gens soient frustrés, dirais-je dans ma version révisée, et qu'ils s'en remettent aux traditions et aux modes de vie qui ont été des constantes de leur existence, qu'il s'agisse de leur foi ou de la chasse ou du travail, ou d'une conception plus traditionnelle de la famille et de la communauté. Et quand les républicains leur disent que nous autres démocrates méprisons tout cela, ou quand nous leur donnons nous-mêmes des raisons de croire que c'est effectivement le cas, alors même les plus louables mesures politiques du monde n'entrent plus en ligne de compte pour eux. Voilà ce que je pensais vraiment. Voilà la raison pour laquelle j'avais obtenu des voix dans l'électorat blanc et rural de l'Illinois et de l'Iowa, parce que même si nous n'étions pas d'accord sur des sujets comme l'avortement ou l'immigration, ces gens percevaient que j'avais pour eux un profond respect et que je me souciais de leur sort. À bien des égards, je me sentais plus proche d'eux que des gens à qui je m'adressais ce soir-là, à San Francisco. Je regrette encore à ce jour de m'être si mal exprimé sur le moment. Non pas parce que cette déclaration nous a exposés à une nouvelle déferlante de critiques assassines de la part de la presse et de la campagne Clinton, même si ce n'était de fait pas très plaisant, mais parce qu'elle m'a poursuivi pendant longtemps. Les termes « aigri » et « se raccrocher aux armes et à la religion » se sont durablement ancrés dans les mémoires, comme le refrain d'une chanson pop, et allaient m'être resservis périodiquement tout au long de ma présidence comme pièce à conviction prouvant que j'étais incapable de comprendre ou de toucher les classes populaires blanches, quand bien même toutes mes prises d'opposition et les mesures politiques que je défendais indiquaient le contraire. J'exagère peut-être les conséquences de cette soirée. Peut-être que les choses se seraient déroulées de la même façon, quoi que je dise, et que ce qui me tourmente en réalité, c'est tout simplement que j'ai commis un impair et que je n'aime pas me faire mal comprendre. Peut-être aussi suis-je agacé par l'excès de soin et de précaution avec lequel il faut formuler ce qui est pourtant l'évidence, à savoir qu'il est possible de comprendre les frustrations des électeurs blancs et de compatir avec eux, sans pour autant fermer les yeux sur le fait que les hommes politiques, tout au long de l'histoire américaine, n'ont pas eu le moindre scrupule à rediriger cette frustration engendrée par des problèmes économiques ou sociaux contre les Noirs et les autres minorités ethniques. Une chose est sûre, les retombées de ma bourde ont en elles-mêmes fourni à celui qui m'avait interrogé ce soir-là à San Francisco une bien meilleure réponse que tout ce que j'aurais pu dire. Nous avons fini la campagne en Pennsylvanie à moitié exsangue. Il y a eu le dernier débat à Philadelphie, une soirée particulièrement dure, où il n'a presque été question que de Pence, de Wright et d'Aigreur. Dans tous ces déplacements, une Hillary requinquée faisait soudain grand cas du droit au port d'armes. Je lui avais trouvé un nouveau surnom, Annie Oakley, en hommage à la gâchette légendaire du Far West. Nous avons perdu avec 9 points d'écart. Comme cela avait été le cas pour les primaires de l'Ohio et du Texas, les résultats en Pennsylvanie n'ont eu que peu d'impact sur notre avance en termes de nombre de délégués. Mais il était indéniable que nous avions pris un coup sévère. Dans le landerneau politique, il se disait que si les résultats des deux prochaines primaires importantes, l'Indiana, où Hillary partait grande gagnante, et la Caroline du Nord, où nous étions largement favoris, confirmeraient une érosion de nos soutiens, alors les superdélégués pourraient bien commencer à s'affoler, auquel cas Hillary aurait des chances réalistes d'arracher in extremis la nomination le jour de la convention. Cette hypothèse a pris une soudaine ampleur quelques jours plus tard, quand Jeremiah Wright a décidé d'enchaîner les interventions publiques. Je ne lui avais parlé qu'une seule fois depuis l'affaire de la vidéo, pour lui dire que je désapprouvais catégoriquement ses déclarations, mais aussi pour lui signifier que je souhaitais le protéger, lui et son église, contre toute retombée supplémentaire. Je ne me souviens pas de cette conversation en détail. Je me rappelle simplement qu'elle avait été brève et pénible, et que ses questions trahissaient une grande vexation. Y avait-il un seul de ces soi-disant journalistes qui ait pris la peine d'écouter ses sermons jusqu'au bout, m'avait-il demandé ? Comment osait-il résumer en 2 minutes et de manière aussi biaisée une vie entière de travail ? En écoutant cet homme fier se défendre, je ne pouvais qu'imaginer son désarroi. Lui qui avait été l'un des orateurs les plus courtisés dans les universités et les séminaires les plus prestigieux d'Amérique, lui qui avait été un pilier de sa communauté, une sommité non seulement dans les églises noires mais dans de nombreuses églises blanches également, le voilà qui était soudain devenu, pour ainsi dire du jour au lendemain, un objet de crainte et de raillerie dans toute la nation. J'éprouvais un remords sincère, conscient que tout cela était dû à ses liens avec moi. Le révérend Wright était la victime collatérale d'un combat auquel il n'avait pas choisi de prendre part. Et cependant, je n'avais aucun moyen d'apaiser sa peine. Et lorsque je lui ai suggéré, de manière pragmatique, même si cela allait aussi de toute évidence dans le sens de mes propres intérêts, qu'il garde profil bas pendant un moment, le temps que la tempête se calme, je sais qu'il l'a interprété comme un nouvel affront. Lorsque nous avons appris que le révérend allait accorder une interview dans l'émission de Bill Moyers, puis prononcer un discours à un dîner de la NAACP à Détroit, suivi d'une nouvelle intervention devant le National Press Club à Washington, le tout à quelques jours des primaires de l'Indiana et de la Caroline du Nord au début du mois de mai, je m'attendais au pire. Mais le révérend a fait preuve d'une grande sobriété lors des 2 premières de ses apparitions, montrant le visage d'un théologien et d'un prédicateur plutôt que celui d'un provocateur. Puis, au National Press Club, le barrage a cédé. Bombardé de questions et exaspéré par les journalistes qui refusaient d'écouter ses réponses, le révérend Wright s'est lancé dans une tirade d'anthologie, gesticulant comme s'il se trouvait dans un festival religieux en plein air, les yeux luisants d'une fureur vengeresse. Il a déclaré que l'Amérique était foncièrement raciste. Il a laissé entendre que le gouvernement américain était responsable de l'épidémie du sida. Il a encensé le leader de la nation de l'islam, Louis Farrakhan. Les attaques dont il avait été victime étaient motivées par le racisme pur et simple, et si j'avais dénoncé ces déclarations, c'était uniquement parce que c'est ce que font tous les politiciens pour se faire élire. Autrement dit, comme le résumerait Marty par la suite, il leur est tombé dessus en jouant à fond la carte ghetto. Je n'avais pas vu le direct, mais quand j'ai visionné l'enregistrement, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. Le lendemain après-midi, assis sur un banc dans le vestiaire d'un gymnase de lycée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, en compagnie de Gibbs, les yeux fixés sur le mur peint en vert industriel, dans les effluvrances des tenues de football américain, je m'apprêtais à tenir une conférence de presse dans laquelle j'allais rompre définitivement les ponts avec quelqu'un qui avait joué un rôle certes modeste mais déterminant dans l'éducation de l'homme que j'étais devenu. Quelqu'un dont les mots m'avaient soufflé le slogan du discours qui m'avait révélé sur la scène politique nationale. Quelqu'un qui, en dépit de l'aveuglement inexcusable dont il faisait preuve aujourd'hui, ne m'avait jamais témoigné que sa bonté et son soutien. « Ça va ?» m'a demandé Gibbs. « Ça va. Je sais que ça ne doit pas être facile. » J'ai hoché la tête, touché par la sollicitude de Gibbs. D'habitude, quand nous étions ensemble, nous ne parlions jamais ouvertement de la pression que nous ressentions. Gibbs était un guerrier d'abord et avant tout, doublé d'un bout en train, et sur la route, nous passions en général notre temps à nous charrier gentiment et à faire des blagues salaces. Mais Gibbs, peut-être parce qu'il avait grandi dans l'Alabama, comprenait mieux que personne les complexités des questions liées à l'origine ethnique, à la religion et à la famille. Et il savait à quel point le bien et le mal, l'amour et la haine, pouvaient se trouver désespérément enchevêtrés dans un seul et même cœur. « Tu sais, je ne suis pas sûr que Hillary ait tort, » lui ai-je dit. « À propos de quoi ?»« À propos de moi, du gâchis que je risque de provoquer. Je pense à ça parfois, au fait que ce n'est pas mon ambition personnelle qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays. Si le peuple américain n'arrive pas à passer outre cette affaire Wright et que je parviens à décrocher la nomination, tout ça pour me faire étriguer à l'élection générale au bout du compte, à quoi ça aura servi ?» Gibbs a posé une main sur mon épaule. Tu ne vas pas te faire étriller. Les gens cherchent quelque chose de vrai et ils l'ont vu en toi. Mettons toutes ces conneries derrière nous une bonne fois pour toutes, histoire de pouvoir se remettre au boulot et leur rappeler à tous pourquoi tu devrais être président. Ma brève déclaration, dans laquelle je dénonçais sans équivoque le révérend Wright et me désolidarisais de lui, a rempli son office. Si elle n'a pas entièrement levé les inquiétudes des électeurs, elle a au moins convaincu les journalistes que je n'avais plus rien à ajouter sur le sujet. De retour sur le terrain de la campagne, nous avons pu de nouveau concentrer notre attention sur la protection sociale, l'emploi, la guerre en Irak, sans trop savoir cependant comment les choses allaient tourner. Puis, nous avons reçu un coup de pouce inattendu. Tout au long du printemps 2008, le prix des carburants s'était envolé, notamment à cause de divers problèmes d'approvisionnement. Rien ne mettait les électeurs d'aussi mauvaise humeur que la flambée du prix de l'essence, et pressé de se débarrasser de ce problème, John McCain avait proposé une suspension temporaire de la taxe fédérale sur les carburants. Hillary s'est tout de suite ralliée à cette idée, et l'équipe m'a demandé ce que je voulais faire. Je leur ai dit que j'étais contre. Si une telle proposition était séduisante sur le papier, je savais qu'elle aurait pour conséquence de vider les caisses déjà bien entamées du Fonds de gestion fédérale des autoroutes, ce qui entraînerait une diminution des projets de construction d'infrastructures et de l'emploi dans ce secteur. Ayant voté pour un projet similaire à l'époque où je siégeais au Sénat de l'Illinois, je savais d'expérience que les consommateurs n'en tireraient pas grand bénéfice. Les propriétaires de stations-service étaient même susceptibles au contraire de maintenir des prix élevés à la pompe et d'accroître ainsi leur marge de profit, dans la mesure où ils étaient censés reporter l'économie réalisée, environ 1 centime par litre, directement sur les automobilistes. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais Plouffe et Axe étaient d'accord. Axe a même suggéré que nous exprimions haut et fort notre opposition à cette idée. Ce serait une preuve supplémentaire de ma franchise envers les électeurs. Le lendemain, debout devant une station-service, j'ai expliqué mon raisonnement à un petit groupe de journalistes et défendu la mise en œuvre d'une politique énergétique sérieuse à long terme, par opposition à la solution démagogique typique de Washington que proposaient McCain et Hillary. Ce n'était qu'une posture politique, ai-je ajouté, destinée à donner l'impression qu'on agissait de manière concrète sans vraiment résoudre le problème. Puis, quand Hillary et McCain ont tous deux essayé de me faire passer pour quelqu'un qui était déconnecté des réalités et qui n'avait aucune idée de ce que quelques centaines de dollars représentaient pour les familles des classes populaires américaines, nous avons doublé la mise en tournant un spot télé sur la question que nous avons diffusé non-stop sur toutes les chaînes de l'Indiana et de la Caroline du Nord. C'est l'un des moments dont nous avons été le plus fiers. Nous avons fermement pris position, sans nous appuyer sur des sondages, et face à des experts politiques qui pensaient que nous avions perdu la tête. Nous avons bientôt constaté dans les sondages que les électeurs paraissaient sensibles à notre argument, même si plus aucun d'entre nous à ce stade, même Plouffe, ne se fiait aux chiffres. Tel un patient qui attend les résultats d'une biopsie, nous étions dans l'incertitude, et la possibilité que notre stratégie se retourne contre nous pesait sur la campagne. La veille des primaires, nous avons tenu un meeting en soirée où Stevie Wonder est venu jouer quelques chansons. Après mon discours, Valérie, Marty, Eric et moi sommes allés nous installer dans une petite pièce à l'écart pour écouter tranquillement le concert devant une bière et une assiette de poulet froid. Nous étions d'humeur songeuse. Nous repensions aux joies de l'Iowa, à la déception cruelle du New Hampshire, aux bénévoles que nous avions rencontrés et aux nouveaux amis que nous nous étions faits. À un moment, quelqu'un a fini par évoquer l'intervention du révérend Wright au National Press Club, et Marty et Eric ont commencé à en imiter à tour de rôle certains des passages les plus incendiaires. Peut-être était-ce le signe que nous étions épuisés ou inquiets à la veille du scrutin, ou peut-être était-ce simplement que nous étions soudain conscients de l'absurdité de la situation. Quatre vieux amis, quatre Afro-Américains du South Side de Chicago, en train de manger du poulet et d'écouter Stevie Wonder, en attendant de savoir si l'un d'eux allait devenir le candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. Toujours est-il que nous nous sommes mis à rire sans pouvoir nous arrêter, le genre de fou rire à vous tirer des larmes et à vous faire tomber de votre chaise, et qu'un rien sépare du désespoir. Puis Axe est entré dans la pièce, l'air plus abattu que jamais. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé, toujours hilar, et essayant de reprendre ma respiration. Axe a secoué la tête. « Je viens de voir les chiffres d'hier. On a 12 points de retard dans l'Indiana. Je crois qu'on ne va pas y arriver. » Pendant quelques secondes, tout le monde s'est tu. Puis j'ai dit « Axe, je t'adore, mais tu es vraiment le roi pour plomber l'ambiance. Alors prends-toi une bière et viens t'asseoir avec nous, ou bien fous-moi le camp. » Axe a haussé les épaules et tourné les talons, emportant ses inquiétudes avec lui. J'ai regardé mes amis et j'ai levé ma bouteille pour porter un toast. À l'audace d'espérer. Nous avons trinqué ensemble et le fou rire nous a repris. 24 heures plus tard, dans une chambre d'hôtel de Raleigh, Gibbs m'a lu les résultats du scrutin. Nous avions gagné en Caroline du Nord avec 14 points d'avance. Plus surprenant, nous n'avions perdu dans l'Indiana que de quelques milliers de voix, ce qui revenait à dire que nous avions arraché le match nul. Il restait 6 États à se disputer avant la fin officielle de la saison des primaires démocrates, et il se passerait encore quelques semaines avant que Hillary, de manière tardive mais avec élégance, concède sa défaite et déclare son soutien officiel à ma candidature. Les résultats de la soirée ne laissaient cependant plus guère de doute. La course était terminée. J'allais devenir le candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. J'ai tout de suite orienté mon discours ce soir-là vers l'élection générale, conscient qu'il n'y avait pas une minute à perdre. J'avais la certitude, ai-je dit au public, que les démocrates sauraient se rassembler pour empêcher John McCain de reprendre le flambeau de la politique de George W. Bush. Axe et moi avons commencé à évoquer des colistiers potentiels, puis j'ai appelé toutes pour lui annoncer la nouvelle. « C'est vraiment quelque chose, Bear », a-t-elle dit. Il était minuit passé quand j'ai appelé Plouffe à notre QG de Chicago, et nous avons discuté des dispositions à prendre en vue de nous préparer à la convention qui se tiendrait dans moins de 3 mois. Plus tard, allongé dans mon lit, incapable de fermer l'œil, j'ai pensé à Michel, qui avait surmonté mes longues absences, tenu seul sur le front domestique et surmonté ses réticences à l'égard de la politique pour faire campagne à mes côtés de manière aussi efficace qu'intrépide. J'ai pensé à mes filles, toujours aussi joyeuses, câlines et enthousiastes, même quand je ne les voyais pas pendant une semaine entière. J'ai pensé à l'habileté et à la détermination d'Axe et de Plouffe, ainsi que de tous les autres membres de mon staff rapproché, au travail colossal qu'ils avaient accompli, sans jamais laisser penser que c'était l'argent ou le pouvoir qui les motivait, à la loyauté dont ils avaient fait preuve face à l'adversité constante, non seulement envers moi et entre eux, mais envers le projet d'une Amérique meilleure. J'ai pensé aux amis comme Valérie, Marty et Eric, qui avaient partagé mes joies et alléger mes peines à chaque instant, sans jamais rien demander en retour. Et j'ai pensé à tous ces jeunes organisateurs et bénévoles sur le terrain qui avaient affronté les intempéries, le scepticisme des électeurs et les faux pas de leurs candidats sans jamais flancher. J'avais demandé aux Américains quelque chose de difficile. Avoir foi en un jeune, nouveau venu en politique, qui n'avait pas encore fait ses preuves. Non seulement un homme noir, mais quelqu'un dont le nom lui-même laissait deviner un parcours qui ne leur semblait pas familier. Plus d'une fois, je leur avais donné des motifs de ne pas me soutenir. Il y avait eu des prestations inégales lors des débats, des prises d'opposition qui s'éloignaient des conventions, des bourdes, et un pasteur qui avait invectivé les États-Unis d'Amérique. Et j'avais affronté une adversaire qui avait prouvé sa valeur et sa force de caractère. Malgré tout, ils m'avaient donné une chance. Derrière le vacarme et le brouhaha du cirque politique, ils avaient entendu mon appel au changement. Même si je n'avais pas toujours livré le meilleur de moi-même, ils avaient deviné ce qu'il y avait de meilleur en moi. Cette voix affirmant sans relâche que, en dépit de toutes nos différences, nous demeurions liés les uns aux autres et ne formions qu'un seul peuple, et que, ensemble, les hommes et les femmes de bonne volonté étaient capables de tracer le chemin d'un meilleur avenir. Je me suis fait le serment de ne pas les décevoir.